Chapitre 46. Ai-je gagné ? Océane claqua la porte du coffre de l'Audi Q3 sans jeter un regard au cadavre de Jamal. Elle se contenta de vérifier que personne ne pouvait les observer dans l'obscurité du jardin. La seule lumière proche émanait d'un réverbère au bout de la rue, dont le halo ne perçait pas les haies qui entouraient la cour. Il faisait froid. Une fine neige fondue tombait en pellicule humide sur les toits et les trottoirs. Personne ne sortirait ce soir. Océane aurait le champ libre pour transporter le corps près des autres. Elle rentra s'abriter dans la chaumière. Des trois garçons, Jamal Salaoui était celui qu'elle avait le plus longtemps hésité à tuer. Pyrose ne comptait pas. Elle l'avait éliminé parce qu'il avait tout compris, qu'il allait rassembler les preuves. Lui planter un couteau dans le ventre et le balancer par-dessus le bastingage du paramé, alors qu'il était à moitié ivre, lui avait pris moins d'une minute. Elle avança vers la cheminée. Quelques dernières flammes mordillaient des quignons de bûche. C'était différent pour Jamal Salaoui. Objectivement, il ne méritait pas de mourir. Il était une victime, comme elle. Victime du système, du jugement des autres et de leur violence mimétique. Un bouc émissaire, au sens le plus exact du terme, un innocent qui endosse la faute collective de tous les autres. De tous les autres hommes. Océane ramassa sur la table basse le récit de Jamal, plus d'une centaine de feuilles, et le jeta au feu. Il ne se passa d'abord rien, puis d'un coup, l'ensemble de la pyramide de papier s'enflamma en une torche immense. Jamal Salaoui aurait pu découvrir la vérité. Ce fouineur de pyrose lui avait parlé du dilemme du prisonnier. Jamal avait tout consigné dans son journal. Et si Jamal n'avait pas compris, un lecteur habile aurait pu reconstituer autrement les indices qu'il avait négligés, s'interroger sur les incohérences de la version officielle. Comprendre. Océane fit tomber sa robe tulipe. Elle demeura de longues secondes nue devant la cheminée, laissant la chaleur des flammes hautes dévorer sa peau. Elle savourait cet instant où aucun homme ne pouvait poser son regard sur son corps, ne pouvait la désirer comme un objet à posséder, à acheter aux enchères de ses petits jeux pervers. Il n'y aura jamais aucun garçon entre nous. La petite voix de Morgane résonna dans sa tête. Sa sœur avait 7 ans. Elles étaient grimpées toutes les deux dans le grand pommier face au gîte de maman. C'était le printemps. Des pétales de fleurs tombaient sur leurs cheveux et leurs épaules, une pluie rose de contes de fées. Il n'y aura jamais aucun garçon entre nous. Elles avaient promis. Elles n'auraient pas besoin de chevaliers, de princes ou de rois pour devenir princesses. Elles étaient sœurs, jumelles, l'une pour l'autre et l'autre pour l'une, sans que jamais rien ni personne puisse se glisser entre elles. Pas même un pétale de fleurs. Le feu mourait déjà dans la cheminée. Seuls quelques lambeaux du journal de Jamal voltaient encore. Océane se pencha et rassembla les cendres pour ranimer des flammèches. Elle devait être prudente, comme elle l'avait toujours été depuis 10 ans. Bien entendu, le gentil et obéissant Jamal n'avait confié à personne qu'il avait rendez-vous chez elle, mais lorsque les flics constateraient sa disparition, ils l'interrogeraient, forcément. Elle ne devait laisser aucune trace de son passage chez elle, encore moins de ce journal. Morgane et elle étaient souvent remontées dans le pommier jusqu'à leurs 18 ans. Elles avaient promis, chaque printemps, chaque année qui les rendait plus proches, plus fortes, plus belles aussi. Aucun garçon entre elles, jamais. Elles étaient tour à tour Blanche-Neige et son miroir, princesse siamoise, deux cœurs mais un même sang. Maman, avec un seul cœur, n'avait jamais eu besoin d'homme. Elle avait fondé une famille, seule. Elle avait bâti de ses mains la plus belle maison de Neuchâtel-en-Bray, seule. Elle avait pris le pouvoir au conseil municipal, à l'association de développement du pays de Bray, seule. Il n'y avait jamais eu aucun garçon entre maman et elle. Le feu était mort. Océane laissa quelques instants le froid hérisser sa peau, puis monta dans sa chambre, enfilait un jean noir et un pull sombre. Il était l'heure que le cadavre de Jamal Salaoui aille retrouver celui des 2 autres garçons. Les routes du pays de Caux étaient désertes. La pluie froide blanchissait les talus et les squelettes des arbres. Océane ne courait aucun danger d'être arrêtée par la police. Qui pourrait s'aventurer dehors à 3 heures du matin sur des routes départementales battues par le vent et la brune glacée? Dans la lumière des phares, un panneau indiquait la direction d'Yport, 10 kilomètres. La promesse de Morgane résonna une nouvelle fois. « Il n'y aura jamais aucun garçon entre nous. » Les riffs de guitare de la soirée du 5 juin 2004 vrillaient son cerveau. Les images défilaient, recouvertes par la musique assourdissante. La virée vers Ipor avec Clara, Nicolas, Mathieu et Morgane. La nuit au Sea View, la piste de danse. Les essuie-glaces battaient au rythme de son cœur, écrasant les larmes qui pourtant renaissaient chaque fois plus denses. Aucun garçon entre nous, jamais. Océane le lui avait répété, elle le lui avait murmuré à l'oreille, dans la Clio de Nicolas, lorsqu'elle avait aperçu Morgane se changer à l'arrière et enfiler cette robe qui lui moulait les fesses et les seins. Elle le lui avait hurlé sur la piste de danse, écartant la forêt d'hommes aux yeux de loup qui l'encerclait. La musique techno hurlait. Morgane, en transe, ne l'avait pas entendu, pas écouté, pas même regardé. Morgane avait promis, pourtant. Nicolas et Clara s'embrassaient sur le canapé. Ce connard de Mathieu avait même tenté sa chance, passé une main sur ses cuisses, posé ses lèvres sur son cou. Croyait-il qu'elle allait renier sa promesse pour sortir avec un cancrelat de son espèce? Il s'était endormi sur sa vodka orange. Océane avait bu aussi, beaucoup, beaucoup trop, plus qu'elle n'avait jamais bu de sa vie. Puis, elle les avait suivis. Morgane avait choisi l'un des loups. Pas un chef de meute, plutôt un louveteau aux dents de lait, chemise ouverte sur un torse épilé et une ridicule écharpe rouge autour du cou. Océane les avait vus s'embrasser sur le parking, se déshabiller tout au bout de la plage. Dans l'ombre de la falaise, elle les avait entendus courir vers la mer, étouffer des rires, se toucher dans l'eau, ressortir en grelottant. Cachée derrière la digue, elle avait entendu Morgane soupirer sous les caresses de l'inconnu, retenir ses râles, se donner, s'oublier. « Tu avais promis !» hurlait une voix dans sa tête. « Aucun garçon, jamais !» Lorsqu'ils s'étaient habillés, sans même que Morgane prenne le temps d'enfiler sa culotte sous sa robe, Océane, titubante, avait suivi sa sœur et le garçon à l'écharpe jusqu'au blocos. Lequel des deux avait eu envie de prendre la main de l'autre, d'y grimper, d'y observer la mer et la falaise jusqu'à l'infini? Océane ne l'avait jamais su. Sous l'effet de l'alcool, tout en bas, les toits d'ardoise des maisons d'Ipor tanguaient comme des vagues grises. Quelques minutes plus tard, quand le louveteau s'était enfin éloigné, Océane s'était approchée. Morgane portait autour du cou l'écharpe de l'inconnu. « Alex me l'a donné !» Il s'appelait Alexandre. Alexandre d'Acosta. « C'est notre lien, notre fil rouge, on va se revoir. Il n'est pas comme les autres. » Les essuie-glaces ne parvenaient plus à évacuer les larmes. Océane ralentit, puis se gara sur le bord de la route, juste avant l'intersection indiquant la direction de Bénouville. Les images étaient trop fortes, floues. Elles se chevauchaient les unes les autres. Ces cris dans la nuit. Le sourire de Morgane. « Tu n'avais pas le droit, tu avais promis, tu n'avais pas le droit. » Le rire de Morgane. « aucun garçon entre nous, jamais !» Son rire de défi. Océane revoyait ses doigts déchirer sa robe pour retenir sa sœur, ses mains serrer l'écharpe pour qu'elle cesse de rire, pour qu'elle pleure enfin, pour qu'elle lui demande pardon, pour qu'elle se blottisse dans ses bras. Pour qu'aucun homme ne puisse plus jamais se glisser entre elles. Océane revoyait les yeux si doux de Morgane se figer, son corps roulé sur l'herbe humide, doucement, suivre le sens de la pente, puis basculer dans le vide. L'Audi redémarra, lentement. Océane avait revu des milliers de fois le regard de Morgane se noyer, s'asphyxier dans le sien avant de s'envoler. Laquelle, de la princesse ou de son miroir, était morte ce soir-là? Aucune? Toutes les deux? Les flics n'avaient rien compris. Ils avaient découvert sur la plage une jolie fille étranglée, sa robe déchirée, des traces de sperme sur elle et dans son vagin, les marques d'une pénétration récente, violente, quelques minutes avant l'agression. Leur conclusion de petit mâle ne pouvait envisager d'autre hypothèse qu'un viol. Océane n'éprouvait que du mépris pour leur incompétence. L'Audi dépassa Bénouville. Le village dormait. Peut-être même ne se réveillait-il pas de tout l'hiver. Un panneau avertissait les automobilistes. Valeuse du curé. Accès interdit. Océane s'engagea. Elle devait rouler encore une centaine de mètres sur un chemin de terre. Qui pourrait venir chercher ici le cadavre de Jamal Salaoui? Personne. Pas plus que les deux autres, il y a des années. Demain matin, la pluie aurait effacé toute trace de pneus sur ce sentier. Océane n'avait eu aucun mal à retrouver Alexandre d'Acosta. Il se cacha à Blanville-sur-Mer dans la résidence secondaire de ses parents, des prêtres traités qui habitaient 9 mois de l'année aux Antilles, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Il était con comme un fin de race, mais avait tout de même compris qu'il était le suspect numéro un dans le viol et le meurtre de Morgane Avril, et qu'il porterait le chapeau à cause de son ADN, de son sperme et de son écharpe s'il montrait le bout de son nez. Océane eut encore moins de mal à le séduire. Elle lui téléphona, prétexta avoir reçu un message de sa sœur juste avant qu'elle ne soit assassinée, un texto lui révélant le nom de son grand amour, Alexandre d'Acosta. Ce crétin supposait qu'un type avait agressé Morgane après qu'il l'avait laissée seule, peut-être pour lui voler son sac à main. Elle lui avait donné rendez-vous à Yvetot, près de l'échangeur de la 29, un soir, dans un hôtel Formule 1 où on ne croise personne, juste des machines qui distribuent des codes pour entrer, des repas surgelés ou des cafés. Elle précisa qu'elle ne l'avait pas dénoncé aux flics, comme elle aurait pu le faire, mais elle hésitait. Elle voulait lui parler avant, elle voulait comprendre, elle voulait connaître chacune des dernières émotions de sa sœur ce soir-là. Il courut, le toutou, la queue entre les jambes, qu'il ne tarda pas à sortir. Il fut bluffé par sa beauté, ce fou. Il la trouvait plus belle encore que sa sœur, ce monstre. Moins démonstrative, peut-être, sur le matelas de la chambre au mur de carton, la 301, alors que son cœur s'arrêtait doucement de battre sous l'effet de la muscarine pilée dans l'infâme moussaka réchauffée au micro-ondes du hall. Océane avait minutieusement fait glisser entre ses doigts le préservatif contenant le sperme du jeune coq, l'avait vidé avec précaution dans un flacon de verre, puis avait chargé le corps dans le coffre de sa voiture vers 3 heures du matin. « Il n'y aura jamais d'homme entre nous », avait-elle murmuré aux étoiles en laissant tomber son cadavre dans le noir. Il fallut de très longs mois avant que les parents d'Alexandre d'Acosta ne signalent la disparition de leur fils de 22 ans qui ne leur donnait des nouvelles qu'une ou deux fois par an. Ils ignoraient même son dernier domicile. Outre la maison de Normandie, il possédait 2 autres résidences en France, une sur la Côte d'Azur et l'autre sur l'île de Ré, une troisième sur l'île de Kresse en Croatie et un appartement aux Baléares. Océane avait appris depuis que près de 65 000 personnes disparaissaient chaque année en France et que plus de 10 000 n'étaient pas retrouvées. Jamais personne ne ferait le rapprochement. Maman chercherait toute sa vie le meurtrier de sa fille pour rien. Il était mort. Océane avait vengé sa sœur. L'homme qui avait tenté de les séparer, toutes les deux, toutes les trois, dormait pour l'éternité dans un trou au fond de la falaise. Océane gara l'Audi Q3 derrière un bosquet de frênes, prenant garde à ce qu'aucun noctambule perdu dans les champs, au cas improbable où il en existe un, ne puisse repérer sa voiture sans passer juste devant. Le plus difficile commençait. Charger le corps sur ses épaules. Prendre soin de ne laisser aucune trace, aucune empreinte, aucun cheveu, aucune goutte de sueur. Parcourir encore 150 mètres à l'ouest de la valeuse du curé. 10 ans plus tôt, en juin 2004, avant de donner rendez-vous à Alexandre d'Acosta au Formule 1, Océane avait passé des journées à errer le long des falaises. Elle se recueillait, pensaient les passants ou les flics, inquiets. Sans doute s'imaginait-il qu'elle hésitait à sauter à son tour pour rejoindre sa jumelle. Ils auraient été trop contents. Comment aurait-il pu deviner que dans ce gruyère de craie, sur des kilomètres, elle recherchait le meilleur des puits naturels pour y faire disparaître les hommes encombrants? Un puits assez large pour y jeter la moitié de l'humanité. Elle l'avait trouvé, un peu à l'est de Bénouville, près du fond des Tigues, dans un avène perdu entre les ronces que seules les vaches connaissaient et où aucune ne s'était aventurée de mémoire de Normande. Océane bloqua sa respiration en ouvrant le coffre. Elle avait enroulé le corps de Jamal dans une couverture qu'elle brûlerait sitôt rentrée à Neuchâtel. C'était la 3e fois de sa vie qu'elle garait sa voiture ici.